La garçonne, chapitre 2. Monique s'exclama. « Ginette !
Quoi ?
Ton flirt ? Léo ? Où donc ? On ne voit rien dans cette cohue. À l'étalage de l'ensuse, en train de choisir un cigare. J'entends d'ici leur cochonnerie. Regarde les sourires.
Ça n'a pas l'air de te troubler.
Moi ?
Ça m'amuse. Comprends pas. »
Ginette Morin pouffa. « Monique, je t'adore. Tu ne comprends jamais rien à rien. Au fond, il n'y a pas plus gourde, malgré tes airs d'indépendante. » Déjà, Ginette avait tourné le dos, faisait l'article en souriant à un gros petit homme chevelu. Jean Plombineau, le roi des mercantis.
Une cravate, cher monsieur ?
Oh, pas pour vous pendre. Non, pour attendre celle de la Légion d'honneur.
Ou ces jolis mouchoirs ?
Non ?
Alors cette boîte de gants ?
Sous les bouquets des énormes lustres, étincelant dans la feuillaison glacée des girandoles, une rumeur montait, continue, de l'enfilade blanche et or des salons. Les personnages mythologiques des hautes tapisseries, alternant sur le damas groseille des murs, semblaient contempler avec surprise la foule qui circulait ou s'entassait, d'un comptoir à l'autre, emplissant d'un brouhaha de voix et d'un remous d'élégance l'immense galerie, transformée pour un jour en salle de vente au rez-de-chaussée du ministère. Le tout Paris, amassé là, y bourdonnait comme un essaim géant de frelons. Jean Plombineau, baron du pape, écoutait distraitement Mademoiselle Morin. Il sentait poser sur lui le regard de Monique. Il s'inclina très bas, tignasse plongeante. Il était veuf d'une Sicilienne marchande d'oranges et cherchait, à sa fillette unique, une éducatrice digne de sa richesse nouvelle. Champignon vénéneux de la guerre, mais champignon juif, et donc fortement attaché au sol familial, le baron gardait, dans son fétichisme des valeurs, celui des vertus conjugales. Il avait, sous l'apparence hardie, discerné la droiture et l'honnêteté de Monique, qualités d'autant plus précieuses à ses yeux qu'il en avait toujours manqué, et les voyait rares, dans le parterre des jeunes filles de toutes parts offertes, en attente de mari et, à défaut, d'amant. Il n'y avait qu'à étendre la main. Prix marqué, au choix. Un seul inconvénient, pour cette Bédide l'herbier, dont la rayonnante blondeur le fascinait, son imminent mariage avec Lucien Vigneret, le fabricant d'automobiles. Bonne marque, évidemment, mais quel coureur! Il n'y avait qu'à attendre, savait-on jamais? Peut-être qu'un jour ou l'autre le divorce. Et puis, à défaut d'une épouse, quelle maîtresse ! Les millions de Plombineau, pachyderme à la peau moite, lui faisaient oublier sa laideur. Un homme qui a 1 200 000 francs de rente est toujours sûr d'être bien accueilli. Vexé par le froid salut auquel sa démonstration venait de se heurter, il redoubla d'œillades pour Ginette Morin. C'était une brune piquante, et dont le voisinage, au lit. Il ne l'y voyait d'ailleurs qu'en manière de passe-temps. Autant, en effet, Monique lui paraissait une compagne enviable, autant Ginette lui inspirait peu de confiance. Pour la bagatelle, autre affaire. Sa lippe pendante, à cette idée, s'humectait. Il acquiesça et moustillait.
Une poite à gants ? Pourquoi pas ? Surtout si vous me les essayez.
Si père, ce serait un peu long.
Je ne crois pas.
Il eut un gros rire. Elle ouvrit des yeux étonnés.
Qu'est-ce que cela a de drôle? C'est du chevreau glacé, 7 1/4.
Ce n'est pas ma pointure.
Évidemment.
Elle rit à son tour insolemment, au spectacle des grosses mains étalées. Jean Plombineau, qui avait autrefois hissé plus d'un sac sur son épaule quand, portefait au doc de Gênes, il gagnait 3 francs par jour, avait gardé du moins l'esprit de ne pas rougir de sa plèbe. L'humilité de naguère épicée, d'un orgueil l'amour-propre de sa fortune. Il gouailla. Tout le monde ne peut pas avoir faux doigts de fée, même en y mettant le prix. Ginette resta court. Qu'insinuait-il? Et que signifiait, venant de lui, cette indication d'achat? Et si c'était pour le bon motif? Baronne Plombino. Alors, si répugnant que fût l'animal, on pourrait voir. Mais le baron reprenait. Ah, voilà justement Léo, l'arbitre des élégances. Bonjour, monsieur Léonidas Mercœur. Mademoiselle Morin vous attendait. C'est la faute d'Hélène Suze, dit le nouveau venu en s'excusant, avec un clin d'œil complice. Je lui faisais votre commission, mademoiselle. Et alors? Entendu. Elle songea. Quelle partouze! Derrière son regard impénétrable, la soirée s'ébauchait. Plaisir de la fumerie à quatre, chez Annika Gobroni, nouveauté de la Coco, et ce qui pouvait s'en suivre. Elle l'imaginait avec une précision confuse, dans sa malsaine curiosité de quart de vierge, en quête de tous les vices. Le baron sentit qu'il était de trop. En tirant de son portefeuille un large billet bleu, « Pour votre belle œuvre, mademoiselle, avec mes respects à madame votre mère. Prenez au moins quelque chose, tenez ce sachet, l'œillet, mon parfum. Alors, comme souvenir, quant au gant, il montra Mercœur, ce sera pour lui, votre pointure lui va, je parie. » Épanoui, il se dandina jusqu'au comptoir voisin où madame Bardineau et Michel Jacquet lui faisaient des signes amicaux. « Il n'y a plus d'aristocratie », prononça avec une amertume élégiaque le distributeur de verdict mondain. « L'argent a tout nivelé, c'est le règne du pamuflisme. » Léonidas Mercœur, plus brièvement Léo, planait par définition au-dessus de ses misères. Graissé, dès l'âge de plaire, par la générosité de ses maîtresses, avant que de fructueuses spéculations dans l'intendance l'eussent en 1915, définitivement mis à l'abri du besoin, en même temps que du feu, l'ancien garçon coiffeur, promu chroniqueur mondain, vivait de ses rentes. 30 000 balles en coupons d'État. Ses économies de la guerre. Depuis, ayant éprouvé l'agrément des services auxiliaires, il les continuait au civil. Vie de bidet de madame Bardineau, c'est ainsi qu'il appliquait à ses menues dépenses, double de ses revenus, une part de ce qu'elle-même tirait de son amant, le banquier en somme. Ce qui n'empêchait pas en outre le beau Léo, confident des vieilles et précepteur des jeunes, de pécher au petit bonheur dans l'eau trouble de chaque rencontre. Des acheteurs coupèrent leur aparté. Fier d'être plus achalandé que sa meilleure amie, la petite Jacquet, dont elle apercevait le profil gavroche au comptoir voisin, Ginette se prodiguait, les yeux brillants, le buste courbé. Coups nus, seins offerts sous le crêpe léger, il semblait qu'avec chaque objet vendu, elle dispensât, à tout venant, un peu d'elle-même. Une satisfaction vaniteuse se mêlait à son excitation sensuelle. Elle aurait ce soir la plus grosse recette. « Attendez donc, Léo, vous ne m'avez rien dit. » Il glissa très bas, très vite, apercevant Max Delhomme et Sacha Volant qui se dirigeaient de leur côté. « Demain, 6 heures, chez Annika. Nous aurons tout le temps, puisque vos parents dînent à l'Élysée. Rendez-vous avec Hélène Suze, ôtée de la place Vendôme. Vous êtes un amour. » Il s'inclinait cérémonieusement, prenant congé, quand une recrudescence d'agitation, un grandissant murmure leur firent tourner la tête. On s'écartait, on faisait place. Comme un vaisseau de haut bord, la sèche, glabre statue de John White, le milliardaire américain, parut, escortée d'une chaloupe basse qui roulait. C'était la maréchale Merlin en personne, présidente de l'œuvre des mutilés français, qui faisait les honneurs, suivie d'un flot bruissant de vieux messieurs et de belles dames. Léo plaisanta.
« Voilà les clients sérieux, je me sauve !»
Ayant tourné le dos à Ginette et se désintéressant de ses exploits, Monique fut toute surprise de voir déferler de son côté la vague des officiels. À qui en avait-il ? Sans doute à la directrice du comptoir, Madame Huttier, vice-présidente de l'œuvre. Non, c'était devant ces éventaires emplis de fleurs artificielles que le cortège s'arrêtait. Ginette, pâle de jalousie, courut à la rescousse et Madame Huttier se précipita en minaudant.
« Je vous présente, » fit la générale en se tournant vers John White, « notre chère vice-présidente, Madame Huttier, femme de l'ancien ministre. »
L'osseux visage du milliardaire ne sourcilla pas. Seul un déclenchement mécanique du coup, en l'honneur de ce gouvernante inconnu. « Mademoiselle Morin, la fille de l'illustre sculpteur. » Ginette, malgré son engageante révérence, vit son nom tarifé du même plongeon indifférent. Mademoiselle L'Herbier. Une expression d'intérêt détendit soudain les traits anguleux.
Ah, oh, produits chimiques, je connais. Et ces petites choses?
Il penchait son long corps sur les menus merveilles, narcisses, roses, anémones, semblables à une floraison de gemmes dans un jardin de poupées.
« C'est Mademoiselle L'Herbier qui s'amuse à les confectionner elle-même, une véritable artiste, et si parisienne !»
La générale, surprise de voir s'animer l'automate qu'elle promenait depuis 20 minutes, sans autre résultat que ses « ah oh » et ses courbettes, saisissait du coup l'occasion, jusqu'ici vainement cherchée, d'intéresser son visiteur aux destinées de l'œuvre.
« C'est une de nos collaboratrices les plus dévouées, nos mutilés l'adorent. »
Ça, pensa Monique, qui n'avait été qu'une fois au grand hospice de Boisfleury et en était revenue si bouleversée qu'elle n'avait plus eu depuis le courage d'y retourner, elle va fort. Mais, d'un coup d'œil militaire, la générale l'invitait à comprendre et à marcher. John White, en même temps, l'enveloppait d'un regard sympathique. Il avait pris dans sa robuste patte une tigelle d'aubépine. Il l'examinait curieusement.
« Est-ce joli, ces pétales blancs ?» bonimenta la présidente. « Remarquez cette finesse de ton. On ne sait si c'est de l'ivoire ou du jade. »
Monique rectifia. « C'est simplement de la mie de pain séché et colorié. »
« Ah oh !» fit John White. « Réellement, je garde. »
Et, tandis qu'il donnait à tenir à la grosse Madame Merlin le délicat joyau, il tira un carnet et son stylo de la poche intérieure de son veston et, impassible, signa, détacha, tendit deux chèques. L'un de 5 000 francs à Monique stupéfaite, pour l'aubépine. L'autre de 10 000 francs à la présidente, dont la face ronde eut un éclat de pleine lune, pour les mutilés. Puis, ayant souri sans mot dire à Monique, il distribua collectivement au comptoir un triple déclic de tête et reprit sa route, sans manifester le moindre désir de faire halte au reposoir suivant, malgré les protestations de Madame Bardineau. Mais il convenait d'offrir, le plus tôt possible, une coupe de champagne au donateur. La présidente, satisfaite, dédaignait maintenant les démonstrations superflues. Et, se pressant derrière la haute mâture américaine et le roulis de la chaloupe pilote, la vague du cortège s'écoula vers le buffet.
« Vous ne nous aviez pas dit, ma chère petite, que vous étiez en relation avec l'Amérique ?» reprocha Madame Huttier.
« Moi, je n'ai jamais entendu parler de John White. »«
C'est vrai, » attesta un nouveau venu.
D'une pièce, Monique pivota, en entendant la voix qui soudain couvrait, pour elle, toutes les autres. Lucien Vigneret acheva.
« Mais John White a dû entendre parler de l'invention de M. L'Herbier. »
Monique soudain s'était éclairée. Un feu rose animait la blancheur délicate de son teint. Elle agita le chèque.
« Comment, vous savez déjà ?
C'est l'événement. Je n'en reviens pas.
Cause toujours, se dit Ginette, en retournant à ses affaires, persuadée qu'il y avait là-dessous un coup monté. Cependant que Madame Huthier, indulgente au succès et à l'amour consacré, s'empressait de laisser les amoureux à leur confidence.
Quel joli couple, et si bien assorti!
Monique et Lucien mimaient du bout des lèvres l'échange d'un baiser. Sous la banalité des paroles, elle n'entendait que le chant de son bonheur.
« Ne cherchez pas midi à 14 heures, continuait Vigneret. « Ce n'est pas pour mériter votre sourire, quoiqu'il vaille bien un chèque, que John White s'est fendu. Ce coup droit vise votre père. Le gaillard doit penser qu'il y a dans l'intégration de l'azote aux engrais agricoles une application profitable à la terre américaine. Et comme John White, francophile, aime mieux commercer avec Aubervilliers qu'avec Ludwigshafen, vous saisissez.
Well, les dollars sont les bienvenus. »
Il remarqua, avec une amertume qui la surprit.
Certes, l'or est toujours le bienvenu, surtout lorsque, sous le signe dollar, ce sont des louis qui rentrent.
On nous rend en industrie ce que nous avons acheté en armement. Le beau malheur, si ce n'est tout de même pas la faute de New York si Paris et Berlin étaient en guerre.
Il acquiesça. Vous avez raison, Minerve. Il la plaisantait de ce surnom donné autant à sa logique, dont il redoutait, tout en les estimant, les affirmations catégoriques, qu'à sa beauté.
Minerve, elle détestait cette comparaison, sous laquelle elle devinait une réticence. Point mal défini, où leur caractère ne parvenait pas à s'accorder. Seule ombre de son amour.
Elle le regarda, il sourit.
« C'est très mal, murmura-t-elle, de me taquiner chaque fois que je parle sérieusement. Au fond, je me moque de tout ce qui n'est pas nous. »
Il la contempla, flattée. Elle murmurait. « Vous êtes le présent, l'avenir, mon corps, mon âme. C'est si bon d'avoir l'un dans l'autre une confiance absolue. Vous ne me tromperez jamais, Lucien. D'abord, des yeux comme les vôtres ne pourraient pas, ne sauraient pas mentir. Dites-moi tout ce que vous pensez. Lucien, Lucien, où es-tu ? »
Il lui prit la main, la baisa longuement au poignet en murmurant « présent ». Et dans un souffle, il modula « je vous aime ». Mais il pensait aussi « elle est assommante avec sa manie de sincérité, ça promet de l'agrément pour l'avenir. J'ai peut-être eu tort de n'être pas plus franc avec elle. J'aurais dû tout lui avouer pour Cléo. Ou au moins prier son père de lui dire en partie la vérité. Maintenant, il est trop tard.
Je vous aime. » À l'incantation des mots magiques, Monique revivait l'heure inoubliable. Tout de seule, par hasard, dans l'appartement qu'ils habiteraient bientôt et qu'elle prenait tant de plaisir à installer. Elle n'avait qu'un désir, mais n'osait le formuler. Que l'occasion se renouvela. À petites phrases, sans rien deviner du chemin qu'il suivait en sens inverse, elle récapitulait, allant au-devant de tout ce qui, jour à jour, achevait de les réunir. Leur course, leur rendez-vous. Ce soir, sa visite quotidienne. Demain, à 5 heures, le fourreur. Ensuite, un coup d'œil au mobilier empire signalé par Pierre Dessouzet. Et puis le Théoritz. Elle eut une moue.
Quel dommage que vous ayez été forcée d'engager votre soirée. Ça aurait été si gentil de dîner avec nous. Et après le théâtre, de réveillonner ensemble. Je vous garderai tout de même votre place. Vous savez, loge 27, Alex Marly, dans Ménélas.
Je ferai l'impossible pour me dégager. Mais je vous assure, l'affaire est d'importance.
Oui. La licence de sa nouvelle voiture, la vente à enlever avec ses Belges venus exprès d'Anvers. Il se déciderait plus facilement dans l'atmosphère agréable du souper. Il lui avait dit tout cela, et elle l'admettait, comme une des nécessités ennuyeuses du métier.
« L'an prochain, par exemple, spécifia-t-elle en levant un doigt menaçant, on ne se quittera plus. »
Elle se voyait, après l'ivresse des jours nuptiaux, communiant jusque dans le quotidien labeur. Ils partageraient tout, soucis aussi bien que plaisir. Juraient ? Parbleu ! Lucien Vigneret, à 35 ans, abordait le mariage comme on entre au port, après une traversée orageuse. Avec la certitude d'être aimé, il goûtait d'avance le calme de l'esprit, dans la satisfaction des sens. Il chaussait la perspective de cette stabilité comme une tiédeur de pantoufle. Il ne songeait qu'à son bonheur. Celui de Monique, il se persuadait de l'assurer en se jouant. De la tendresse, des prévenances, et bientôt l'absorbante présence des enfants. Absorbante pour la mère. Car des enfants même, il ne se souciait guère, ayant déjà, de par le monde, une fillette abandonnée. Responsabilité qui ne pesait pas plus, haussant à l'heure de sa conscience, que son dernier chien écrasé. Son grand tourment, à l'heure actuelle, était la rupture inévitable, au moins en apparence, avec sa maîtresse, Cléo, modiste. Une jeune femme qu'il avait, jeune fille, débauchée, puis établie, et qui comptait bien l'épouser un jour. Nature emportée, jalouse, tout à fait le caractère de Monique. Mais, plus que la franchise et la spontanéité de celle-ci, engluable, estimait-il, surtout depuis qu'il l'avait conquise sans réserve, il craignait de la part de l'autre, à la mairie, quelque éclat. Comment l'éviter ? En endormant ses soupçons jusqu'à la fin. D'ici là, il serait le maître, brevet en poche, de l'affaire L'Herbier. Ensuite, on verrait. Quitte à atteler discrètement à deux, s'il le fallait, pour commencer. Lucien Vigneret, calculateur avisé, escomptait le gros coup dans cette association avec son futur beau-père. Pacte conclu en principe, et dont Monique était, à son insu, l'enjeu. Atteinte par la crise générale des affaires, l'usine L'Herbier, sous sa surface brillante, chancelait. Ce qui restait des bénéfices de guerre avait fondu à la poursuite de l'invention nouvelle. Lucien n'en jugeait pas moins gagner une magnifique partie, en donnant quitus, au contrat, des 500 000 francs non versés de la dot de Monique, et en apportant à la société L'Herbier Vigneret que 500 000 francs d'argent frais. La transformation de l'azote, diligemment exploitée, était de l'or en barre. D'où sa mauvaise humeur mal dissimulée, devant la générosité inquiétante de John White, commanditaire possible. Après le mariage, tant qu'il voudrait. La fille, jusque-là, avait aux yeux de Vigneret toute la valeur, mais rien que la valeur du brevet. Il n'était, raisonnant de la sorte, ni meilleur ni pire que la plupart des hommes. Il allait dire au revoir à Monique quand celle-ci, d'une supplication spontanée, le retint. « Maman va venir, restez, vous nous accompagnerez. » Dans sa ferveur ingénue, elle jouissait de l'instant précaire, comme une religieuse de l'éternité. Lucien, avec sa mine décidée, sa maigreur musclée, ses yeux de jais, ne l'emportait-il pas sur tous, les plus beaux à côté de lui? Même Sacha Volant, l'ancien aviateur devenu champion de courses automobiles, même Antinous, alias Max Delhomme, le critique littéraire de la nouvelle anthologie française, Palissé. Justement, elle les aperçut, empressés autour de Ginette. Mademoiselle Morin inspecta, méprisante, l'éventaire de Monique. Bien que la fin de la vente approchât, il était encore plus qu'à demi garni. Et, montrant devant elle place vide, « Hein, ça te dégote, moi je n'ai plus rien à vendre. »«
Si, » protesta Sacha Volant.
« Non, quoi ?»«
Ça ?»
Il désigna la rose qui se fanait à sa ceinture. Max Delhomme souligna, d'un sourire ambigu.
« Votre fleur ?»
Ginette riposta.
« Trop cher pour vous, mes petits amis !»
Ils s'exclamèrent.
« Par exemple, à combien ? Fixez un prix !»
Je ne sais pas. 25 louis, c'est trop ?
C'est pour rien, assura galamment Sacha Volant. Je dis 30, et mieux vaut.
40, lâcha Max Delhomme. 50.
Mademoiselle Morin jugea l'équivoque, sinon l'enchère, suffisante, et, détachant la rose que déjà s'apprêtait à saisir Sacha Volant, elle l'attendit à Mercœur, qui, à point nommé, venait de réapparaître.
« Adjugez, messieurs, » fit-elle avec une grimace moqueuse, « je ne la vends pas, je la donne. »
Dans les grands salons, où la foule était moins dense et où la rumeur s'atténuait, la vente de charité s'achevait en réception particulière. À l'orchestre de la garde républicaine avait succédé le fameux jazz band de Tom Frick. Des foxtrots et des chemises se trémoussaient entre les tables dans la grande salle du buffet. Autour des comptoirs, où les groupes s'étaient formés au rappel des sympathies, les éclats de rire et les voix résonnaient plus haut. On eût dit, après la bousculade de l'après-midi, l'entrain d'une fête choisie, où l'élite mondaine serrait les rangs. Les 500 à 600 figurants de toutes les sacristies et de toutes les générales étaient là. On se retrouvait entre soi.
« Votre mère n'arrive pas, » dit Vigneret. « 6 heures, il faut que je me sauve, une affaire indispensable. »
Le rendez-vous avec Cléo, chez elle, à 6h15. Il n'avait que le temps.
« Alors, » fit-elle en soupirant, « à ce soir, ne venez pas trop tard. »
« 9h30, comme d'habitude. »
Il s'éloignait sous le tendre regard. Quand il eut disparu, Monique éprouva la sensation d'un isolement brusque. Que faisait-elle dans cette foire de toutes les vanités et de toutes les corruptions? Le luxe et la sottise qui paradaient là, sous ses lambris gouvernementaux, tandis que s'additionnaient tapageusement les recettes, proclamées par chacune à coups de grosses caisses, lui soulevaient le cœur. L'étiquette dorée, au profit des mutilés français, ne parvenait pas à recouvrir dans sa mémoire et dans sa sensibilité l'atroce vision du grand hospice de Boisfleury. Si familiarisée qu'elle eût été, naguère, avec la souffrance et les hôpitaux, ce spectacle-là, ces cloportes humains se traînant ou sautillant sur leurs béquilles, les troncs manœuvrant sur roulettes, les grands blessés de la face, tous ces débris d'hommes qui avaient été de l'intelligence, de l'espoir, de l'amour, et n'avaient plus que des moignons informes, des visages embouillis, des yeux blancs et des bouches tordues, c'était un souvenir insupportable. Il la pourchassait d'une indicible horreur. Crime de la guerre, tâche de Sani que tout l'or du monde, toute la pitié de la terre n'effacerait jamais au front sanglant de l'humanité. Le rire aigu de Ginette Morin s'éleva. Monique, en même temps, venait d'apercevoir sa mère. Elle se hâta à sa rencontre. Madame l'herbier, épanouie dans ses fourrures, avançait nonchalamment.
« Partons vite. Qu'est-ce que tu as ? La nausée. »
Madame l'herbier s'apitoya.
« Ce n'est pas étonnant avec cette chaleur.
Voyons, tu attendras bien que je fasse un petit tour. » Et, comme elle étouffait, elle écarta son étole de zibeline. Le collier de perles parut sur le cou gras.